Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, confortablement installé chez vous, le plus simplement du monde, par la simple lecture d'extraits choisis par Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Comment vas-tu bien aujourd'hui?
Comme d'habitude, c'est-à-dire on ne peut mieux.
Bien, maintenant tu peux peut-être nous dire le titre du roman que tu as choisi de nous lire aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui je vais vous parler du Texas, grâce à un roman de Joe R. Lansdall, publié aux éditions Gallimard en 2006, qui s'appelle « Les marécages ».
D'accord, tu vas donc nous faire un cours de géographie?
Alors,
non,
je vais pas vous faire un cours de géographie, mais les livres, ça sert à voyager. Et Lansdall est américain. Donc là-bas, c'est même un auteur très connu, un auteur culte.
Non, moi, je ne connais que Michael.
Mais je connais qu'il est très peu connu en France, car ses histoires se déroulent toujours au Texas, qui est donc assez éloigné de notre univers de français. Il écrit principalement des westerns, des policiers, mais il a pourtant jamais été un cow-boy, mais il a été fermier, il a été chercheur d'or avant de pouvoir vivre de ses livres. Donc on peut dire de quoi il sait de quoi il parle quand il parle du Texas. Lansdall est né au Texas, il y vit encore aujourd'hui, hein, c'est donc un Texan pur jus, c'est comme ça qu'on dit.
C'est comme ça qu'on dit.
Voilà, donc il sait de quoi il parle.
Bien.
Texas, 1933. Je suppose que certains avaient de l'argent à l'époque, mais pas nous. C'était la Grande Dépression. Et de toute façon, si on en avait eu, il n'y avait vraiment pas grand-chose à acheter ces années-là, à part des cochons, des poulets, des légumes et des denrées de base. Et puisqu'on se produisait les trois premiers, c'était celles-ci qui nous intéressaient. Et parfois, on faisait du troc pour se les procurer. Mon père cultivait quelques arpents, et l'endroit où on vivait était plutôt fertile. Le vent avait emporté presque tous les sols du nord et de l'ouest du Texas, et aussi ceux de l'Oklahoma. Mais le South Texas était luxuriant, et il pleuvait assez pour que tout y pousse rapidement, même pendant les périodes de sécheresse. La terre avait tendance à retenir un peu d'humidité et on réussissait toujours à avoir une récolte même si elle n'était pas aussi bonne que prévu. En fait, alors que le reste de l'État était épuisé et transformé en poussière, le South Texas connaissait parfois de terribles trombes d'eau, voire des inondations. On avait plus de chances de perdre une récolte à cause de trop de flotte que de pas assez. Papa possédait un salon de coiffure qu'il ouvrait tous les jours, sauf le dimanche et le lundi. Et il était le constable, c'est-à-dire le shérif local, vu que personne d'autre n'avait voulu de ce boulot. Pendant un temps, il avait été aussi juge de paix, avant de décider que c'était trop pour lui. Ce fut Jim qui le remplaça à ce poste, et dès lors, papa répéta à qui voulait l'entendre que Jim était foutrement plus efficace que lui pour marier les gens et signer les certificats de décès. On vivait en pleine forêt, près de la rivière Sabine, dans une maison blanche de trois pièces que mon père avait construite avant ma naissance. Il y avait une fuite dans le toit, pas d'électricité, un poêle à bois qui fumait, une grange branlante un peu plus loin, une véranda où on dormait l'été, protégée par une moustiquaire rapiécée et un WC extérieur que les serpents avaient adopté. On éclairait avec des lampes à pétrole. On allait chercher l'eau au puits et on passait beaucoup de temps à la chasse et à la pêche pour varier les menus. On était propriétaire d'environ 2 hectares défrichés et d'une douzaine d'autres de forêts. On cultivait notre terre sableuse avec l'aide d'une mule nommée Sally Redback. On avait une voiture, mais papa la réservait pour faire son boulot de constable et pour aller à l'église le dimanche. Le reste du temps, on marchait ou bien ma sœur et moi, on se déplaçait sur le dos de Sally Redback. Notre propriété et les centaines d'hectares qui l'entouraient débordaient de gibier, mais aussi de tiques. À l'époque, les grandes forêts du South Texas n'étaient pas toutes rasées et on n'avait pas encore un Forestry Department pour nous expliquer qu'elles avaient besoin de notre aide pour survivre. On se disait simplement que, puisqu'elles avaient poussé sans nous pendant des siècles, elles pourraient sans doute continuer à se débrouiller seules encore longtemps. Il y avait donc encore de grands arbres et des endroits paumés dans les bois et le long des rives ombragées de la Sabine que seuls fréquentaient les animaux. On trouvait là une multitude de sangliers, d'écureuils, de lapins, de ratons laveurs, quelques tatous, toutes sortes d'oiseaux et beaucoup de serpents. On voyait parfois des bancs de mocassins nager dans la rivière, avec leurs petites têtes diaboliques qui flottaient à la surface comme des nœuds sur un tronc d'arbre. Des cerfs aussi rôdaient dans ces bois. Il y en avait peut-être moins qu'aujourd'hui, maintenant que les viandards les font pousser comme du blé pour les moissonner avec leur gros calibre pendant la saison. Ils les gavent de maïs et les habituent à l'homme pour pouvoir les descendre plus facilement et se donner l'impression d'être de grands chasseurs. Flinguer un cerf, transporter sa dépouille dans un pick-up et faire empailler la tête leur coûte plus cher qu'une visite chez le boucher du coin où ils pourraient acheter une quantité équivalente de steak. Ces gars-là aiment bien se débarbouiller le visage avec du sang de leurs victimes et prendre des photos, comme s'ils étaient de vrais guerriers. On jurerait que ces foutues bêtes en face d'eux étaient armées et dangereuses. Mais bon, voilà que je recommence à prêcher. J'étais en train d'expliquer que nous vivions et à quel point les forêts étaient giboyeuses. Avec ma sœur Thomasina, mais tout le monde l'appelait Tom parce que c'était plus facile à mémoriser et aussi parce que c'était un garçon manqué. On parcourait ces bois du petit jour à la tombée de la nuit. Ce n'était pas inhabituel pour les enfants en ce temps-là. Bon sang, ces forêts étaient presque notre second foyer. On avait un chien, Toby, un mélange de chien de meute, de terrier et de nabot. N'empêche que c'était un putain de chasseur. Mais pendant l'été 33, alors qu'il sautait contre le tronc d'un chêne pour aboyer après un écureuil et qu'il poursuivait, une branche morte se détacha de l'arbre et l'écrasa. Le choc fut si violent qu'il lui paralysa l'arrière-train. Je le ramenais à la maison dans mes bras. Tom et moi, on pleurait et lui, il geignait. Papa était en train de labourer avec Sally Redback. Il contournait une grosse souche au beau milieu du champ. De temps en temps, il l'attaquait à la hache et il y mettait le feu. Mais elle était têtue et elle était toujours là. Papa cessa de travailler quand il nous vit. Il ôta les courroies de ses épaules et attacha Sally Redback à la fameuse souche récalcitrante. Il nous rejoignit. On allongea Toby devant lui, sur le sol tout juste retourné, et il l'examina. Contrairement à la plupart des fermiers, mon père n'aimait pas les salopettes. Ce jour-là, il ôta son feutre humide de transpiration, il s'accroupit et le posa sur ses genoux. Il avait des cheveux châtains foncés où le soleil révélait quelques mèches grises. Son visage était long et mince et ses yeux vert clair étaient doux, mais il semblait vous fouiller l'âme comme il se fixait sur vous. Lorsque papa fit bouger les pattes de Toby et essaya de redresser son dos, le chien hurla de douleur. Il resta un moment silencieux comme s'il réfléchissait à toutes les éventualités, puis il nous dit d'aller chercher son fusil, d'amener le pauvre Toby dans les bois et de mettre fin à ses souffrances. « Ça ne me plaît pas, » grommela-t-il à mon attention, « mais il le faut. »« Oui, monsieur, » répondis-je, mais ces deux mots sortirent de ma gorge comme si eux aussi, à l'exemple de Toby, étaient brisés. Ces jours anciens peuvent paraître cruels, mais on n'avait pas beaucoup de vétérinaires dans les environs, et de toute façon pas assez d'argent pour leur amener un chien si on avait voulu. d'autant qu'en ces circonstances, un veto aurait fait la même chose que nous. À la différence d'aujourd'hui, on s'habituait à la mort dès notre plus jeune âge. C'était comme ça, on y était constamment confronté, car on élevait des cochons et des poulets qu'on tuait pour les manger, et on chassait et on pêchait. Ceci étant, je pense qu'on respectait bien plus la vie que de nos jours certaines personnes, et on ne tolérait pas les souffrances inutiles. Dans des cas comme celui de Toby, on devait se charger nous-mêmes du boulot et non se dégager de notre responsabilité sur quelqu'un d'autre. La question ne fut même pas évoquée, mais il était clair que Toby était notre chien et que c'était donc à nous d'agir, et plus précisément, comme j'étais l'aîné, c'était à moi d'agir, pas à Tom. Revenons au roman lui-même, Les Marécages. Je te dis le pitch du roman en deux mots.
Eh ben vas-y, je t'écoute.
Allons-y. En 1933, quelque part dans le Marigot du South Texas, un shérif blanc enquête sur un crime d'une femme
noire.
Noire. J'en dirai pas plus. Et peu importe, Une enquête est une enquête, un roman policier est un roman policier, et déboule la plupart du temps sur l'arrestation d'un tueur. Alors si je vous dis la suite, que c'est un tel qui est l'assassin, franchement, on sera bien avancé, hein. Et puis vous ne lirez pas le bouquin en plus. Or, le but de cette émission, c'est quand même de lire le livre. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est parler du Texas. Vous allez vous apercevoir que je n'arrête pas de faire l'aller-retour dans mes divers chapitres autour d'une même scène, celle de l'autopsie d'un cadavre. Oui, Dominique, dans tout polar qui se respecte, il y a toujours une autopsie d'un cadavre. C'est comme ça que ça se passe.
Avec un médecin légiste.
Avec un médecin légiste. Celle-ci se déroule dans une grange qui semble rester fraîche puisqu'on l'appelle la glacière. Et donc, vous entendrez parler de la glacière de temps en temps. Ce qui m'a intéressé le plus donc dans ce livre, c'est le Texas lui-même. L'histoire se passe au South Texas, je l'ai dit tout à l'heure.
Au sud Texas.
Donc au sud du Texas, parce qu'en effet, le Texas est un pays tout en longueur et il faut bien séparer le nord du sud. Le nord était un désert où les gens fuyaient à cause de la sécheresse, alors que le South, lui, c'était les marigots, les forêts giboyeuses, et vraiment tout poussait encore. Et en 1933 se déroule la scène de ce livre. Et donc l'année n'est pas choisie au hasard, 1933, car elle apporte deux caractéristiques, n'est-ce pas Dominique ?
La première et la seconde. Voilà.
Merci Dominique. Alors ça m'aide énormément. Donc la première, c'est que nous ne sommes pas loin de la fin de la guerre de sécession.
Oui, on est quand même au 19e quand même.
Oui, 19e année, oui, 19e année 1865, pour la fin de cette guerre qui a duré 4 ans. Et donc, comme on est en 33, ça fait 68 ans au moment de ce roman que cette guerre est finie. Oui, mais au Texas, en 1933, un nègre reste un nègre. Les esclaves ont tous été affranchis, mais ils sont encore là. Ils travaillent dans les mêmes terres pour les mêmes personnes, même si certains sont déjà partis. Il reste des citoyens de seconde zone, dans leurs quartiers réservés, leurs villes réservées, leurs places dans les bus réservées. Réservées ou interdites, hein, ça dépend comment on voit les choses. Le Ku Klux Klan existe encore. Au Texas, au début du XXe siècle, deux sociétés se côtoient, l'une blanche, l'autre noir, séparé par un mur d'hostilité et de méfiance. Non, tu ne peux pas venir. Mais papa, pas de si, ni de mais, ni de peut-être, tu ne peux pas venir. Le jour se levait. J'avais à peine fermé l'œil de la nuit par crainte de ne pas me réveiller à temps pour discuter de ce voyage avec mon père. Et pourtant, je ne me sentais pas fatigué le moins du monde. Au contraire, je bouillonnais d'énergie et d'excitation. D'un air innocent, j'avais demandé à papa ce qu'il avait prévu pour aujourd'hui. Et quand il m'avait répondu qu'il allait à Pearl Creek, je lui avais demandé pourquoi. Il devait étudier avec le docteur de cette ville le corps de la femme que j'avais découverte. C'était alors que je lui avais dit que je voulais l'accompagner. « Je ne te poserai aucun problème, » insistai-je. « Peut-être, fiston, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu viennes. C'est une affaire d'adulte. » On était assis autour de la table. Mon père mangeait deux œufs sur le plat préparé par ma mère. Il trempait son petit pain dans les jaunes. J'avais eu droit à la même chose, plus un verre de babeur. Maman gardait la bouteille au frais dans l'eau du puits et la remontait quand on en voulait. Bien sûr, il m'avait déjà dit non, mais j'avais appris que non ne voulait pas toujours dire non. En tous les cas, pas du premier coup. En revanche, quand papa répétait non pour la troisième fois, là, je savais que c'était inutile d'insister. Maman lui versa du café et intervint. « Jacob, il a déjà vu ce cadavre. Pourquoi tu ne le laisses pas t'accompagner ? Il n'est pas obligé de le regarder une nouvelle fois. » Ce n'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais si elle pouvait convaincre papa de m'emmener, ça serait toujours ça. Comment tirer profit de ce soutien maternel ? Papa soupira, il considéra maman, qui sourit. « Eh bien, je ne sais pas, » murmura-t-il. « Il a des choses à faire à la maison. »« Non, pas beaucoup ce matin. Je peux m'en charger avec Tom. » »«
Tom va adorer, » ricana papa. « Emmène-le, ça ne lui fera pas de mal à savoir ce que tu fais. »
Maman se tenait derrière lui, une main sur son épaule. Elle m'adressa un petit clin d'œil. Mon père n'ajouta rien, et ma mère non plus. Quand papa était sur le point de prendre une décision, il valait mieux se taire et attendre. Ça signifiait qu'il était sûr de rien et qu'il pesait le pour et le contre. Il pouvait décider n'importe quoi. Si son choix ne me convenait pas, je pourrais toujours supplier, plaider ou me lamenter, mais une fois que son idée serait faite, ce serait en vain. Papa termina sa seconde tasse de café, puis maman lui en servit une troisième qu'il emporterait avec lui. Il m'observa, plissa les lèvres et me dit « Tu peux venir, mais tu ne restes pas dans mes jambes. Hein. Tu ne fais rien à part m'accompagner à l'aller et au retour. Garde bien ça à l'esprit. »
« Oui, monsieur. »
On monta dans la Ford, papa démarra, et nous voilà partis. J'adorais rouler en voiture. On n'apprenait pas souvent. Comme ça, selon papa, on économisait l'essence et le moteur. En outre, il n'y avait pas toujours de route là où on voulait se rendre. Il fallait se déplacer à pied, ou à dos de mule, ou en chariot. Mais aujourd'hui, c'était un jour spécial, parce qu'on pouvait rejoindre Pearl Creek par la route et qu'en plus j'étais avec mon père et je découvrais le monde. La route était boueuse et on faillit s'enliser plusieurs fois, mais on arriva finalement à Pearl Creek. La petite ville s'élevait sur une berge de la rivière. Pour y entrer, il fallait franchir un pont étroit construit avec des traverses de bois qui, lorsqu'on s'y engageait, s'entrechoquaient au passage des pneus. Ou des sabots, des chevaux, ou des roues de chariot, cela dépendait. Comme si elles allaient s'effondrer sous vos pieds. Pearl Creek n'était habité que par des Noirs, excepté le vieux Papy Crimson, qui gérait la scierie avec ses fils. Papy avait épousé une Noire. Du coup, la communauté blanche le méprisait, tandis que les gens de couleur l'acceptaient. Des années auparavant, le Ku Klux Klan lui avait tendu une embuscade un jour où il revenait en ville à cheval. On l'avait enlevé, déshabillé, fouetté, avant de lui raser le crâne et de l'enduire de goudron et de plumes. On avait abattu son cheval d'un coup de fusil. Puis on l'avait traîné jusqu'à Pearl Creek, attaché à un poteau de clôture entre les fenêtres de deux voitures pour finalement l'abandonner devant la porte de son magasin. À en croire la rumeur, il n'avait sans doute pas été lynché parce que qu'un de ses parents était membre du clan. Toujours est-il que le clan décida que le fouet, le goudron et les plumes étaient une leçon suffisante. Papy continua son existence avec sa femme noire et dès lors, le clan lui ficha la paix. Le terrain où s'élevait Pearl Creek était autrefois un marécage. Et même si les lieux avaient été déboisés pour devenir une bourgade habitable, ils étaient toujours détrempés et envahis de moustiques. Mon père disait que ces saletés étaient si grosses dans ces coins-là qu'elles pouvaient s'emparer d'un homme, le dévorer vivant et repartir avec ses chaussures. Ce jour-là, on ne vit aucune voiture. À cette époque, il n'y en avait pas beaucoup dans cette région du South Texas. On ne croisa que quelques cavaliers, un gamin qui allait à pied et trois chariots tirés par des mules. On s'arrêta devant l'épicerie bazar, un bâtiment tout en longueur, au bois usé par les intempéries et au toit en fer blanc avec des remises à l'arrière. On descendit de voiture et on alla jusqu'à la pompe de la communauté. C'était le seul endroit de Pearl Creek où on trouvait de l'eau courante, hormis la rivière. Il y avait un certain nombre de latrines le long de la berge, et si la plupart des gens estimaient que tant que la force de l'eau emportait les déjections, elle était potable. Papa en doutait, et il m'avait interdit de la boire. La crotte contient des choses qu'on appelle des microbes, Harry. Ils s'accrochent à la rive et sur le fond, dans la mousse, sur les rochers et tout ça. Et ils passent dans la flotte, puis à l'intérieur de toi, et tu tombes malade. Je n'ai jamais vu un microbe, mais je ne doute pas qu'il soit encore plus petit que les tiques et les rougets eux-mêmes.
D'après moi, papa n'était pas vraiment capable de comprendre qu'ils pouvaient être microscopiques. Il imaginait bien qu'ils étaient petits, mais probablement pas à un tel point. Il fit fonctionner la pompe pour moi. Je rafraîchis ma tête sous l'eau, puis j'y passai mes mains et mes bras. Ensuite, il m'imita tandis que je pompais pour lui à mon tour. Quand il eut terminé, il sortit un peigne de sa poche, s'en servit pour égoutter avec soin ses cheveux noirs coupés courts et refaire sa raie. Puis il me le tendit, je l'utilisai un instant et je le lui rendis. Devant nous se dressait un bâtiment impeccable, badigeonné à la chaux. On pénétra dans une grande pièce blanche, presque nue, sentant le désinfectant et l'essence de pain, où trônait un grand bureau avec un fauteuil en érable. Une veste de costume pendait à son dossier. Il y avait là des classeurs à tiroirs en bois, une étagère de livres, de la moitié de la taille de celle de la maison, et un rang de chaises solides. Une porte s'ouvrit et livra passage à un noir de grande taille, plus âgé que papa, qui s'essuyait les mains dans une serviette. Il était vêtu d'un pantalon, de costume sombre, d'une chemise blanche et d'une cravate noire. « Monsieur le constable, » dit-il. Il n'avança pas la main. C'était très rare de voir un noir et un blanc se toucher à l'époque. Mais papa lui tendit la sienne, et le docteur Tin, surpris, jeta sa serviette sur son épaule et la serra. « Je suppose que vous savez pourquoi je suis là, » demanda mon père. « En effet, » répondit Tin. En m'approchant de lui, je me rendis compte à quel point il était grand. Il devait mesurer plus d'1,90 m et ses épaules étaient très larges. Ses cheveux étaient coupés courts et il portait une moustache aussi minuscule que le fil d'un rasoir. Il fallait être très attentif pour le remarquer. « Vous avez examiné le corps ?» demanda papa. « Non, je vous attendais. J'ai pensé qu'au lieu de la déplacer, ce serait préférable de l'autopsier dans la glacière. C'est ce qu'on va faire. Je prends le matériel dont j'ai besoin et on file. J'aurai besoin que vous m'indiquiez où vous avez trouvé le cadavre et que vous me donniez certains détails. « D'accord, » murmura mon père. Le docteur Tin s'immobilisa. « Et votre fils ? Il nous attendra dehors. » Mon cœur se serra. « Parfait !» grommela Tin en récupérant sa veste de costume au dos de son fauteuil. « Allons-y. » I run a lot of miles of life and crime, and mountain climbs and quitting times, packing that load of lying rhymes and tired jokes and wooden dimes. I've been everybody's friend, everybody's friend. I could lose my house, I could steal a car, I could serve two masters, living hard, living like a dog in a cage in a yard with a fistful of cold hard cash that I can't let go. The devil can't have my soul, the devil can't get your soul. The devil can get your soul. Around and the trumpet sounds and his number calls, and the moment he falls in the haunted halls, a man he will understand, he will comprehend, he will not pretend, he will not pretend. When the rain don't fall and the river don't run and the wind takes orders from the blazing sun, the devil don't brag for the forest egg, and you had about as goddamn much as you can take. The devil don't take a break, the devil don't take a break, the devil don't take a break.
Eh bien, le pire, c'est qu'on se demande si les choses ont beaucoup évolué et se sont améliorées de nos jours.
Tout à fait, parce que dans la partie que je viens de vous lire, c'est, ça reste soft encore. Hein. Bon, un blanc rencontre un noir et il ose lui serrer la main, ça ne va pas au-delà de ça. Mais aujourd'hui, dans certaines rues dans le quartier du Bronx, à New York, il vaut mieux éviter ce quartier du Bronx, hein, pour nous les Blancs. Néanmoins, il ne s'agit que de certains quartiers, de certaines rues. On peut quand même librement y aller. Mais par contre, les lois, elles ont évolué. Elles ont évolué depuis la grande marche pour les droits civiques, puis le discours du pasteur Martin Luther King qui a eu lieu en 1963, c'est-à-dire 30 ans plus tard que ce roman. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et tu imagines que donc, en 1933, dans une ville du Texas, ou dans un comté quelconque, quand il y avait un meurtre, immédiatement, la population pensait que c'était un noir, c'est-à-dire un nègre, qui était coupable. Et alors, tu penses que les Blancs, ils allaient voir gentiment le shérif en disant « Ah, on pense que c'est ce noir-là qui a tué ?» Absolument pas, ça se passait pas comme ça. C'était la justice élémentaire et rapide. C'est comme ça que ça se passait. Alors maintenant, écoutons la suite. Deux jours plus tard, il me semble, juste avant l'aube, je fus réveillé par des coups violents contre la porte d'entrée. On aurait dit qu'on tentait de l'enfoncer avec un tronc. Ma sœur, qui pouvait parfois dormir aussi profondément qu'un poteau de clôture, continua à roupiller. Je me levai d'un bond, m'habillai en vitesse et me précipitai à la cuisine. Papa était déjà là, un revolver à la main. Une bretelle de sa salopette était en place et l'autre pendait encore. Il s'approcha de la fenêtre, jeta un coup d'œil dehors, attrapa une lanterne, l'alluma et, dissimulant son arme dans sa poche droite, il ouvrit la porte. Au loin, on entendit une voiture accélérer. Par la fenêtre, j'aperçus deux feux arrière qui s'éloignaient sur le chemin. L'automobile fonça dans un tourbillon de poussière rouge et jaune, puis elle disparut, et seule la lune illumina encore d'une couleur dorée surnaturelle le nuage qui retombait lentement sur le sol. Un message était fixé à la porte par un canif aux manches rouges. Papa arracha le couteau et rentra avec le bout de papier. Il le posa sur la table et le lut tout en refermant le canif et en le rangeant dans sa salopette avec le revolver. Maman arriva, les cheveux défaits, le visage creusé par l'inquiétude. Elle regarda le feuille, je l'imitai. Écrit avec un gros crayon noir, le texte disait « Mose a des ennuis, vous devriez vous en occuper ». Papa ne prononça pas un mot et il courut chercher ses chaussures. Je retournai sur la véranda de derrière et j'enfilai les miennes, puis je me glissai dehors, grimpai dans la Ford et m'allongeai sur le plancher à l'arrière contre le siège. Moins de deux minutes plus tard, j'entendis la portière s'ouvrir et claquer, et maman qui criait « Jacob, sois prudent, ça pourrait être un piège !» Et la voiture démarra. Je savais que je venais de gagner une correction bien méritée, mais je me considérais comme une pièce essentielle de ces événements. Au bout d'un moment, la voiture commença à cahoter et à brinque-baller, et je fus secoué si violemment que ça me fit mal aux côtes. Je compris qu'on avait quitté la route principale pour s'engager dans le chemin qui descendait à la Sabine et à la cabane de Mose. Un instant plus tard, mon père coupa le moteur et sortit. J'attendis un moment, puis je me redressai, et par-dessus le siège, je regardais discrètement à travers le pare-brise. Devant la cabane de Mose et sur les côtés, c'était plein de voitures, de chariots, de chevaux, de mules et de gens. Le petit matin colorait la rivière, et les personnes rassemblées dans la cour avaient pris les mêmes teintes que le ciel et l'eau. J'en reconnus plusieurs. Certains étaient des amis de mon père, et j'avais déjà croisé une bonne partie des autres. Il devait bien être une quarantaine. Soudain, la foule s'ouvrit pour laisser passer M. Nation.
ses deux fils et un homme que j'avais rencontré en ville, mais que je ne connaissais pas. Mose était entre eux. Il le traînait à moitié. J'entendis la voix forte de Monsieur Nation dire quelque chose à propos d'un foutu nègre, et puis je vis papa qui se frayait un chemin dans la foule. Une femme corpulente, avec une robe imprimée, des chaussures carrées et des cheveux noirs coiffés en chignon au sommet de sa tête, hurla « Pendez le nègre !» Je ne me revois pas vraiment sortir de la voiture, mais soudain j'étais là-bas au milieu d'eux, aux côtés de mon père. Quand il me découvrit, il écarquilla les yeux de surprise, mais il n'avait pas le temps de s'occuper de moi. « Arrêtez !» ordonna-t-il. La foule se referma sur nous, mais laissa passer Monsieur Nation et les trois autres qui entraînèrent Mose dans notre cercle. Mose avait l'air très vieux, flétri, ridé comme une peau de vache trempée dans de la saumure. Sa tête saignait, ses paupières étaient enflées et ses lèvres éclatées. Quand il aperçut papa, ses yeux d'émeraude s'éclairèrent. « Monsieur Jacob, empêchez-les, je n'ai rien fait à personne !»«
Ça ira, Mose, » lui répondit mon père. Puis il jeta un regard furieux à Monsieur Nation.
« Nation, c'est pas votre affaire !»«
Bien sûr que si, c'est notre affaire à tous !» répliqua Nation. « Quand nos femmes ne peuvent plus sortir sans craindre d'être attaquées par un nègre, alors oui, c'est notre affaire !»
Un murmure d'assentiment monta de la foule. Bill, ici présent, prétend qu'il était en possession du sac à main de cette femme, dit Nation.
Je représente la loi en ces lieux, lui rappela mon père.
Non, pas aujourd'hui, assura Monsieur Nation. Lâchez-le. Jadis, on ne traînait pas pour s'occuper des mauvais nègres, reprit Monsieur Nation. Et on avait trouvé un système vraiment rapide. Si un négro faisait du tort à un blanc ou à une blanche, on le pendait et on n'emmerdait plus personne. Il faut résoudre rapidement les problèmes des nègres, ou tous leurs frères croiront qu'ils peuvent violer et assassiner nos femmes quand ça leur chante.
La foule se resserra autour de nous.
« Il n'y a pas de preuve contre lui, assura mon père. Il avait son sac à main, non ? Ça ne veut pas dire qu'il ait tué cette fille pour se le procurer. « Tu fais moins le fier maintenant, n'est-ce pas, Jacob ?» cria Monsieur Nation. « Toi et ton amour des nègres, vous ne serez pas les plus forts dans le coin. »
« Ne reporte pas sur Mose ta rancune personnelle à mon égard. Relâche-le. Il ne sera relâché qu'au bout d'une corde. Vous ne pendrez pas cet homme, » dit mon père.
« C'est drôle, » ricana la Nation, « parce que je crois que c'est justement ce qu'on a l'intention de faire.
On n'est pas dans l'Ouest sauvage ici. En effet, c'est une rivière bordée d'arbres et on a une corde et un mauvais nègre.
C'est un vieil homme, » protesta papa.
« Oui, lança quelqu'un, et il ne vieillira plus !»
Un des fils de Monsieur Nation s'était éclipsé discrètement pendant cet échange, et quand il réapparut, il portait une corde avec un nœud coulant au bout, qu'il passa autour du cou de Mose.
« Je vous en supplie, Monsieur Jacob, gémit Mose, je n'ai fait de mal à personne. »«
Je le sais bien, dit papa. »
Il fit un pas en avant et libéra Mose. La foule laissa échapper un gémissement d'animal blessé et soudain tout le monde tomba sur mon père et le bourra de coups de poing et de pied. J'essayais de les repousser, mais ils me frappèrent aussi. L'instant d'après, j'étais par terre et ils nous passaient à tabac. Puis j'entendis Mose qui appelait papa au secours. Quand je levais les yeux, il lui avait remis la corde autour du cou et il le traînait par terre. Et Mose essayait de desserrer le nœud coulant avec ses mains et son vieux corps laissait des sillons derrière lui dans l'herbe boueuse de la rive. Papa et moi, on se releva et on suivit la foule en titubant. Mon œil commençait à se fermer là où j'avais reçu un coup de pied. Je vis mon père fouiller dans sa poche en quête du revolver, mais en vain. Il regarda autour de lui sur le sol. Son arme avait dû tomber pendant la bagarre et quelqu'un l'avait ramassée.
« Arrêtez » hurla-t-il. « Arrêtez ça, bon sang !»
Ils traînèrent Mose jusqu'à un groupe de chênes. Quelqu'un lança la corde au-dessus d'une grosse branche. Puis tous ensemble, ils l'attrapèrent et commencèrent à tirer pour soulever le vieillard. La corde glissa sur la branche comme un serpent, avec un sifflement et le flottement contre l'écorce la fit fumer. La branche plia avec un craquement.
Mose tenta encore de se libérer, mais il ne parvint pas à passer ses doigts contre son cou et le nœud coulant. Ses pieds remuaient déjà dans le vide. Papa s'avança en chancelant, saisit ses mollets et prit Mose sur les épaules. Mais Nation lui donna un violent coup de pied dans les côtes et il s'écroula. Mose retomba avec un bruit sec, agita les jambes comme un fou et cracha une écume teintée de sang. Ses yeux devinrent rouges et son visage gonfla. Papa tenta de se relever, mais la foule recommença à cogner. Je fonçais dans le tas en hurlant et en agitant les bras et je frappais au hasard tous ceux que je pus atteindre. Quelqu'un abattit le tranchant de sa main sur ma nuque. Le monde explosa. Je fus incapable de rester debout, incapable de rester à genoux. Je n'arrivais plus à faire grand-chose. Le ciel sembla s'élever à toute vitesse entre les branches et les feuillages des chênes, puis je vis les semelles de Mose. Ma dernière vision fut les trous dans ses chaussures et le carton qu'il avait mis à l'intérieur pour les boucher. Il avait pris l'humidité et commençait à partir en morceaux. J'aperçus son pied, nu, dans un de ces trous-là, là où le carton était déchiré. Le trou était exactement au-dessus de moi, puis il s'élargit et m'engloutit.
Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change around here. Say it loud. Say it clear, things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Day after day, year after year, we're gonna change around here. The time gonna change around here. Gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. Change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here.
Tout à l'heure, donc, tu te rappelles, Dominique, je t'avais dit, et je vous avais dit à vous aussi, auditeurs, qu'en cette année 33 au Texas, il y avait deux...
Tu cherches à les auditeurs, là, c'est ça.
Ou l'auditeur. Donc, il y avait deux caractéristiques. C'est quoi la seconde ?
1933, la crise économique de 1929,
exactement.
Peut-être.
1933, c'est 4 ans.
J'avais pensé à l'accession d'Hitler au pouvoir, mais je n'ai pas le rapport.
Aucun rapport. Non, non, 33, oui, c'est quelques années après la fin de la crise économique. Et l'auteur aborde un petit peu cette grande dépression. Je repense à ce vieux film de John Ford, comment il s'appelait, Les raisins de la colère. Les raisins de la colère avec Harry Fonda. C'est un film en noir et blanc. Oui, je crois. Oui, enfin, oui, moi, oui, c'est oui, l'image oui, que j'ai encore, qui raconte l'épopée d'une famille qui fuit la sécheresse dans le sud des États-Unis pour remonter vers le nord. Voilà. Donc, dans ce roman, on est dans le South Texas. Hein, on est dans le South. On n'est pas dans la sécheresse. On n'est pas dans la pauvreté. On est dans cette grande récession. Mais n'empêche que l'auteur évoque un petit peu cette fuite. Il l'évoque à travers une vieille dame, la mamie du jeune garçon, qui est le narrateur, donc, et il l'a fait un petit peu parler lors d'une partie de pêche. Mémé enfila une salopette. Tom et moi, on déterra des verres qu'on enferma dans une boîte à café, puis on rassembla les cannes et tout le matériel de pêche. Et avec Mémé et son calibre 12 à double canon, on s'enfonça dans les bois en direction de la rivière Sabine. La forêt avait une odeur acide ce jour-là, et à la façon dont le soleil brillait entre les arbres, on avait l'impression d'être dans une espèce de cathédrale où la lumière traversait les vitraux. Des aiguilles de pin craquaient sous nos pieds et des feuilles colorées volaient autour de nous aussi serrées que des gouttes de pluie. Je me sentais toujours aussi lourd et somnolent, mais finalement la marche me revigora. Arrivé au bord de l'eau, on choisit un endroit où la rive était creusée par le courant et on accrocha des vers sur nos hameçons. On commença à pêcher et presque aussitôt Mémé se mit à parler. « Tu ne m'as pas oublié, hein, Harry ?»« Non, madame, je me rappelle quand tu es parti. Je me souviens très bien de toi et de Pépé aussi. » « Bon sang, je suis heureuse d'être de retour. Moi, je ne me souviens pas de toi, » dit Tom. Mémé rigola, « Je suppose que non. Je suis désolé pour Pépé, » murmurai-je. « Moi aussi. Pourtant, je ne pouvais pas m'installer là-bas, au cimetière. Une tombe, c'est juste une tombe. Et il est là dans mon cœur. Et j'adore ma fille et Erlène. Mais il fallait que je revienne dans le South Texas. Ils n'ont pas d'arbres là-haut, près d'Amarillo. » « Pas d'arbres ?» s'étonna Tom. « Les gens du coin prétendent que ce sont des arbres, mais pour moi, on dirait des simples buissons. Z'ont pas les rivières et les ruisseaux comme par chez nous. Z'ont pas les bestioles qu'on a, et c'est plus difficile de produire à manger. On peut rien cultiver là-bas. » « D'après papa, ici aussi les temps sont durs, » soufflai-je. « Ils sont durs partout, mais ici, ça n'a rien à voir avec le North Texas ou l'Oklahoma. » Ou le Kansas, où il y a tous ces pauvres gens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Harry, pour commencer, ils n'ont pas la même terre que nous. Ici, tu laisses tomber une crène par terre, et elle se développe toute seule. C'était terrible là-haut, au North Texas. Une fois, on a réussi à faire pousser des choses, du maïs, du coton, des pois, ce genre de trucs, et puis il a fait sec. Plus la moindre pluie, et la terre a ressemblé à une croûte sur une blessure. Quelques nuages venaient faire un tour dans le coin de temps en temps pour nous narguer, mais ils ne donnaient pas une seule goutte. En fin de compte, ils ont cessé de se moquer de nous et ils sont tout bonnement disparus. Tout s'est desséché, le maïs a jauni sur les pieds, les épis se sont ratatinés comme des chenilles sur un plat à rôtir. Les patates pourrissaient dans le sol ou quand on les déterrait, on aurait dit des nœuds dans du pain. Pas bon à manger. Même en les faisant bouillir de maintenant jusqu'à dimanche prochain, en les recouvrant de sel et de poivre et en tapant dessus avec un marteau. Le coton n'a plus grandi et les pois ont cramé. Avec la sécheresse, le sol a fini par ressembler à de la poudre de riz et le vent est arrivé, un vrai Blue Moser sauvage. Il a embarqué la terre et l'a répandue dans tous les coins. On s'est retrouvé avec de la poussière partout, entre les dents, dans l'arrêt des fesses, entre les orteils, dans tout ce qu'on mangeait et qu'on buvait. Il a aspiré la terre de dessous des rochers et toute la richesse du sol, et il n'a laissé que du sable qui coulait comme de l'eau entre nos doigts. Puis il y a eu des sauterelles. « Nous aussi, on a des sauterelles !» dit Tom.
Bien sûr, mais ici elle ne crève pas la dalle et elle ne dévore pas tout ce qui est vert ou brun ou qui a un peu de vie à l'intérieur. Celles-là ont bouffé tout ce qui restait des cultures, même les feuilles des buissons et de ces machins qu'ils prennent pour des arbres. Et elles s'accrochaient tout le temps dans les cheveux, un vrai désastre. Pour finir, ces nuages de poussière qui flottaient ont été ramassés pour de bon par le vent, et le ciel est devenu aussi noir qu'un pêcher de pasteur. Sauf aux endroits où le soleil réussissait encore à s'infiltrer comme du sang qui suinte d'une tête coupée. Et toute cette terre a été soufflée, toute la couche fertile est partie se trimballer Dieu sait où. Alors tout le monde s'est précipité en Californie pour les cueillettes. Ils ont filé là-bas comme les voitures, dans des voitures et des camions pourris, aussi usés que ceux qu'ils transportent et des récoltes qu'ils abandonnent derrière eux. « Les cueillettes ?» demandai-je. « Des fruits et des baies, Harry. Tout ce qu'ils font pousser là-bas a besoin d'être ramassé. » Les Hokies partaient par centaines, des Texans aussi. Je pense qu'ils poursuivaient cette terre que le vent leur avait volée, comme s'ils poursuivaient un rêve. Ils se tiraient tous vers l'ouest ou le nord, et du coup j'ai décidé d'aller dans l'autre direction. « Et Tanterline ?» Mémé jeta sa ligne dans l'eau. Son mari et elle, eux aussi, ils ne jurent que par la Californie. On leur a raconté que c'est la terre promise, et ils le croient. Moi, je ne voulais pas m'éloigner autant du Texas. Je veux mourir ici, dans le South Texas, en tout cas. Au moins, je serai dans une terre marécageuse, et pas dans un trou poussiéreux. Ça me plaît de penser que des vers peuvent vivre dans ce sol-là, et que s'ils me mangent avec tous leurs amis, alors je serai au moins dispersé partout dans ce pays. C'est horrible ce que tu dis, grand-mère. Elle éclata de rire. Non, je crois pas. Je préfère me transformer en crottin de vers. Que pourrir lentement dans un désert. Ici, les racines des arbres retiennent la terre. Ici, les ruisseaux, les rivières et les nappes les gardent humides. Voilà pourquoi je voulais revenir. Et puis, je n'avais pas passé assez de temps avec Tom et toi. Les garçons d'Earline sont des adolescents maintenant. Ils ont leurs propres projets. Et j'espère qu'aussi longtemps que je vivrai, je ne me ramasserai plus jamais du coton. Ni une seule baie, sauf celle que je cueillerai pour les manger.
De lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne. Des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Que tu caches, petite Anne.
Et enfin, pour terminer l'émission, ça c'est pour te rassurer, Dominique. Ce qui m'a plu beaucoup dans ce bouquin également, c'est une affaire d'éducation. Le temps de reprendre pied sur le sol et de contourner le bâtiment pour rejoindre la porte d'entrée, la foule des curieux commença à se disperser. Les gens marmonnaient, furieux de n'avoir rien appris. Le vieux noir, oncle Pharao, se dirigeait vers l'épicerie dans sa carriole en criant « Allez, avance, pique Jess !»« Faut que j'y aille, » annonça Abraham quand il le vit. « Je dois l'aider pour ses commissions et tout ça. »« Je suis avec eux, » dit Richard. « C'est sympa de te rencontrer, Harry. » Et là-dessus, ils me quittèrent. J'essayais d'avoir l'air innocent lorsque papa et Doc Tin sortirent de la glacière. On marcha un peu en silence, puis mon père murmura. « Fiston ? » ?»« Oui, monsieur. J'aime autant que tu m'obéisses. Quand tu seras plus grand, tu pourras agir à ta guise, tant que tu respectes la loi des hommes et celle de Dieu. Mais pour l'instant, tu m'obéis. » Ainsi, il m'avait vu. « Oui, monsieur. » On continua à mastiquer un instant, puis je dis « Tu vas me donner le fouet ?»« Non, t'es trop grand pour ces bêtises, tu ne crois pas ?»« Oui, et tu as raison, je te traitais donc en fonction de l'âge que tu as, mais même si tu es plus mature. Tu acceptes ce marché ?»« Oui, monsieur. » »« Ça signifie que tu dois écouter ce que je dis, ou ce que dit ta mère, ou que tu dois faire preuve de bon sens. » Je ne voulais pas que tu assistes à ça. Je l'avais déjà vu, papa. Je sais, fils, mais ce n'était pas par hasard. En revanche, ce qui vient de se passer ici ne te concernait pas. C'était différent, tu m'entends ? Oui, monsieur. Quelqu'un, quelque part, devait aimer cette pauvre femme. Et ce n'était pas bien que des inconnus l'observent bouche bée comme un phénomène de foire. Elle n'a plus aucun contrôle sur ce qui lui arrive désormais. Et c'est donc à nous d'y veiller. Tout ce qu'on a fait ici, c'était pour découvrir comment retrouver son meurtrier. Autre chose, mon garçon, il y a des trucs que tu n'as pas besoin de connaître, sauf en cas d'absolue nécessité. Peut-être que tu n'y penses déjà plus, mais crois-moi, ce que tu viens de voir te reviendra un jour ou l'autre, et ce ne sera pas rigolo. À propos, j'ai vu que vous étiez là-haut, sur ce toit, avec les autres, dès que vous y avez grimpé. Vous n'avez pas été assez discret. Et juste pour ta gouverne, tes deux nouveaux copains sont de braves gosses. Oncle Pharao est le grand-père du plus jeune. Abraham ? Exact. Et l'autre, c'est le fils de M. Dale, un fermier plutôt sympa. Il catche dans les foires pour gagner un peu d'argent. J'ai entendu dire que ce n'était pas un mauvais gougre. Son fils s'appelle... Attends que je réfléchisse. Richard, ouais. Richard, ces deux garçons s'entendent bien. Laisse-moi ajouter quelque chose de pas drôle. Dans quelques années, Abraham et Richard ne joueront plus ensemble. Ils ne se fréquenteront même plus. Pourquoi, papa ? Mon père regarda oncle Pharao comme pour s'assurer qu'il ne nous entendait pas. Parce que le monde ne tourne pas comme il devrait. Réfléchis à ça et tu trouveras tout seul ta réponse à ta question.
Bien, merci Hervé, merci pour ce roman. Tu nous en rappelles le titre et l'auteur ?
Les Marécages de Joe R. Lansdall, publié en 2006 aux éditions Gallimard.
Très bien. Eh bien, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons le mois prochain.
Oui,
le mois prochain, ça va être le mois d'août. Hein. Ça va être.
Oui.
Donc, ce sera peut-être des rediffusions. Donc, ce sera peut-être qu'à la rentrée de septembre maintenant. Eh bien, à bientôt. Au revoir, Hervé.
Au revoir.
Passe de bonnes vacances.
J'espère.
Et à la rentrée. Au revoir, tout le monde.